Il est 7h24. On va faire le point sur quelques questions qui concernent le réseau de l'éducation. Beaucoup de parents qui m'écrivent, qui se préparent à ces journées donc où les élèves seront à domicile, tous les ajustements, est-ce qu'ils vont recevoir le matériel avant de quitter pour les deux jours donc qui précèdent Noël, est-ce qu'il y aura des activités en ligne. Le ministre de l'Éducation est avec nous, Jean-François Roberge. Monsieur Roberge, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, c'est quoi la directive qui est envoyée là pour les écoles? C'est-à-dire que moi, j'ai des parents qui m'expliquent que le matériel, dans le cas d'un de leurs enfants, est donné avant le congé. Donc, pendant les deux jours, ils auront du travail à faire, mais il n'y a pas d'intervention du prof. Dans d'autres cas, il y a des rencontres de prévues. Est-ce que c'est laissé à chacun le choix ou s'il y a une directive?
Il y a des directives très claires qui sont différentes pour le primaire et le secondaire. Au secondaire, on garde simplement l'horaire qui était prévu si on était en classe. Et puis, à la maison, avec notre ordinateur, notre tablette, en ligne, on continue nos cours selon le même horaire, un peu comme le font en ce moment les élèves de secondaire 3, 4, 5 qui vont à l'école en alternance, sauf que là, ça va être quelques jours consécutifs. Pour le primaire, ben on passe seulement de 2 à 4 jours avant Noël. Pour 60% des élèves du Québec, c'est 2 jours, puis pour 40%, là, c'est 3 à 4 jours. À ce moment-là, les élèves n'ont pas tous un ordinateur, une tablette, puis de toute façon, les plus petits, là, 7, 8 ans, sont pas nécessairement habiles à les utiliser en solo. À ce moment-là, les profs vont utiliser, oui, parfois des outils technologiques, l'ordinateur, tablette, mais d'autres fois, ça va être un cahier d'activité qui va être préparé à l'avance. Et chaque élève va être contacté au moins une fois à chaque jour par son enseignant ou son orthopédagogue ou son orthophoniste pour s'assurer que tout va bien. Ça, ce sont les balises.
OK. Mais est-ce que je comprends qu'il y a quand même du travail à faire? Ce que je veux dire, là, si un parent n'a pas de rendez-vous téléphonique, n'a pas des cours en ligne pour son ado ou pour son enfant qui est au primaire ou qu'il n'y a pas du travail remis à l'avance, là, il y a un problème.
Ah, tout à fait. Il y a du travail à faire. Ce sont des jours de classe à la maison. Personne n'est en congé. Là, les élèves ne sont pas en congé. Et personne dans le réseau scolaire non plus n'est en congé. Tout le monde reçoit son salaire. Tout le monde fait sa prestation de travail. Les élèves doivent faire leurs activités. Puis les enseignants doivent accompagner les élèves, être disponibles, les contacter pour les soutenir.
OK. Là, j'ai beaucoup de courriels de parents puis qui se posent des questions sur cette période-là, puis même actuellement. Puis je vous donne un cas, là, puis je ne sais pas si ça fait partie des moyens de pression. Dans une école, cinquième année, le prof, et j'ai vu là, la correspondance avec les parents, envoie une note en disant qu'on ne corrige pas les devoirs, qu'on donne aux parents le corriger, de s'arranger avec ça, que c'est facultatif, que l'important, c'est l'étude, d'une part. D'autre part, on rappelle qu'il y a des moyens de pression qui ont commencé et que les contacts avec les parents vont se faire sur les heures normales, c'est-à-dire du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Je sais, dit l'enseignant, que ça provoque des contraintes pour les parents qui ne sont peut-être pas disponibles, mais on n'a pas le choix compte tenu qu'on est en négociation. Est-ce qu'on a présentement des moyens de pression de cette nature-là?
Ben écoutez, j'ai entendu parler de ça. C'est déplorable, là. Les élèves en ce moment sont en mode rattrapage, on le sait. Même beaucoup d'enseignants nous le disent. Ils ont besoin de tout le support possible. Alors, parce que les syndicats négocient avec le gouvernement, il y aurait peut-être des enseignants qui en feraient moins pour contacter les parents et donc pour aider les enfants. Si c'est le cas, c'est déplorable. Mais en même temps, ça ressemble pas au professionnalisme que je connais des enseignants avec qui j'ai travaillé de nombreuses années, mais je pense pas que c'est une bonne idée là, de faire rentrer la négociation syndicale dans le soutien aux apprentissages des élèves.
Là. OK, mais là, il y a des parents qui se disent, moi, je peux pas être disponible entre 8h30 et 16h30. Comment mon prof, jusqu'à la semaine passée, je pouvais avoir un contact parfois à 17h, 17h15. Là, ça semble, je sais pas si c'est un mot d'ordre, là, mais ça semble pas un cas isolé.
Écoutez, je vais faire les vérifications, M. Arcand. Je n'ai pas vu passer de mot d'ordre syndical allant dans ce sens-là. Les enseignants ont une semaine de travail qui ne se limite pas à la présence élève. On n'est pas enseignant seulement là. Quand on est en présence d'élèves, il y a d'autres tâches. Là, on doit planifier, mais on doit aussi se concerter avec les professionnels, puis on doit aussi communiquer avec les parents.
Okay.
Ça fait partie là, de la tâche des enseignants. Puis, je pense que chacun le sait. Encore une fois, j'invite les enseignants à faire preuve du professionnalisme qui font preuve pratiquement en tout temps. Je veux dire, les élèves ont besoin de tout, sauf d'être laissés à eux-mêmes en ce moment-ci, je dirais. Là.
Bon, mais il y a des professionnels en éducation qui s'occupent des services aux élèves handicapés puis à des élèves qui ont des problèmes d'adaptation qui disent, dans un sondage qui est rendu public ce matin, là, 70 % n'ont pas vu les tâches administratives allégées telles que promis, que le fardeau de la bureaucratie est encore lourd et que ça leur donne moins de temps pour s'occuper de leurs enfants qui ont pas mal de problèmes et peut-être plus en raison de la pandémie.
Mais encore une fois, M. Arcan, je vous inviterai à prendre garde. Là, ce que vous me citez, c'est un document du syndicat ouais. des professionnels. Encore une fois, on est en négociation. Il faut toujours regarder les informations avec cet angle-là. Au mois d'août, on a annoncé un allègement bureaucratique sans précédent qui était demandé, d'ailleurs, par les syndicats.
Mais est-ce que c'est
mais
fait?
Mais aussi par les professionnels, puis les ordres professionnels. On l'a clarifié au mois de septembre parce que, bon, certains milieux disaient, oui, on a bien compris, puis les orthophonistes, orthopédagogues nous disaient que ça faisait un bien fou. Puis d'autres nous disaient que c'était pas suffisamment clair, c'était moins bien compris dans leur école. En septembre, on a réécrit une lettre avec les professionnels et des directions d'école pour être sûr que tout le monde la comprenne. Je pense qu'à ce moment-ci, il n'y a jamais eu autant de services professionnels dans notre réseau scolaire, M. Arquin.
Mais c'est inégal, c'est ça?
Ben, je pense pas que ça soit inégal encore à ce moment-ci. Je pense que les premières semaines de septembre, il y avait des milieux qui avaient plus ou moins bien compris la consigne, mais je vous dirais que depuis autour du 15 ou du 20 septembre, là, c'est réglé.
Vous me dites là ce matin que les élèves qui ont des problèmes d'apprentissage, des élèves qui ont des problèmes, bon, qui sont handicapés, ont plus de services que l'an passé à pareille date.
Tout à fait, tout à fait. Il peut y avoir plus d'élèves. Ben, écoutez, M. Arcan, on a embauché, l'an passé, on a embauché plus de 700 professionnels à temps plein qui sont encore là cette année. Ce n'était pas là, des gens là, qui avaient un contrat. Cette année, on a ouvert des postes pour en embaucher 350 de plus, des nouvelles personnes, orthophonistes, orthopédagogues, psychoéducateurs.
Mais est-ce qu'ils ont été embauchés?
On a reçu 20 millions de dollars pour compléter les tâches. Et là, on a allégé leurs tâches bureaucratiques.
OK, mais la question, c'est...
Alors, l'équation est simple.
On affiche des postes, mais est-ce que les postes, un, sont comblés? Deux, est-ce qu'on a pris des professionnels pour remplacer des profs qui étaient absents parce qu'on manquait de profs? Tu sais, je comprends la théorie, là, mais la pratique sur le terrain, c'est quoi?
Non, on a embauché de vrais professionnels. Il peut y avoir encore des postes qui sont disponibles sur les 350 embauches de cette année, qui sont en cours d'année. On en a d'embauchés d'autres. Ce sont des postes qui vont être comblés en cours d'année. Vous me parlez peut-être de ce qui avait sorti dans les médias, qu'il y avait quelques orthopédagogues ouais. à qui on confiait des classes. Juste mettre les choses en perspective, au CSSDM, au Centre de services scolaires de Montréal, il y avait quelque chose comme 200 orthopédagogues. Il y en avait 10 qui étaient affectés à des classes temporairement. Et c'était des classes d'élèves en difficulté d'apprentissage. Donc, c'était pas forcément une mauvaise nouvelle de confier à un orthopédagogue la supervision d'une classe de 10, 15 élèves ayant, supposons, une dyslexie ou un trouble du spectre de l'autisme.
OK. L'autre question. La députée Marois Risky, je trouve qu'elle a poussé une popée hier quand elle vous a posé la question. Êtes-vous un ventilo-sceptique? Ça n'a pas l'air à vous préoccuper tant que ça, les problèmes de ventilation dans les classes.
Ben écoutez, des fois, elle est meilleure pour faire des jeux de mots que des propositions concrètes et applicables. On n'est pas du tout sceptique, pardon, ou dans le déni par rapport à l'aération, à la ventilation. C'est pour ça qu'on a investi autant d'argent depuis 2018 pour retaper nos écoles. Vous le savez, nos écoles qui étaient vraiment en piteux état, y compris les systèmes de ventilation. On a pu en rénover, en changer plusieurs. On a rajouté 20 millions de dollars au mois de septembre juste pour les nettoyages des conduits de ventilation, pour le changement des filtres, pour l'aération. Puis on est arrivé vendredi avec un rapport qui démontre que le réseau a des notes entre 93 % et 99 % pour ouais, mais l'entretien, l'inspection, le nettoyage.
Ça, c'est quand il y a des systèmes. Il y a moitié des classes, des écoles n'ont pas de système.
Le rapport parle aussi des endroits où on appelle un système de ventilation naturelle, c'est-à-dire par l'ouverture ouais. des fenêtres, mais on doit le faire en suivant les balises de l'Institut national de la santé publique.
Mais dites-moi pourquoi ça a pris autant de temps à avoir le portrait de la ventilation, le COVID ou pas, avoir un minimum de qualité d'air dans les écoles, il me semble que c'est normal. Comment ça se fait, là, en sachant qu'on avait une deuxième vague, là, ça a pris tout ce temps-là pour colliger l'information, puis après ça, commencer à avoir les tests. Là. Je parle pas des sommes qui était prévu déjà pour des travaux, là, de faire que l'inventaire... Votre collègue Dubé a dit l'autre jour, ici, il a nuancé un peu après, mais qu'on aurait peut-être dû faire ça plus vite.
Mais on a envoyé toutes les consignes sur l'application des règles institutionnelles de la santé publique en juin. Après ça, on les a retournées au mois d'août pour être sûr que ça soit bien suivi. Puis moi, j'ai moi-même eu des conversations avec des directions générales de centres de services scolaires qui nous disaient « Pas de problème, M. le ministre, on est capable de suivre ces règles-là » qui disent en réalité que les systèmes de ventilation qui fonctionnaient avant en intermittence doivent fonctionner cette année en continu 2 heures avant l'arrivée des élèves, toute la journée, au minimum 2 heures après le départ des élèves en fait et du personnel. Les écoles qui sont ventilées par des fenêtres, on en a beaucoup au Québec, puis on en a beaucoup à travers le Canada. En Ontario aussi, à peu près la moitié de leurs écoles sont comme les nôtres, c'est-à-dire ventilées en ouvrant les fenêtres. Bien, on a des nouvelles balises cette année qui nous dit qu'il faut ouvrir, selon l'Institut national de la santé publique, les fenêtres 3 fois par jour, 15 à 20 minutes. Ce sont des mesures qu'on a appliquées dès le premier jour de septembre. On n'a pas attendu là au mois de novembre pour appliquer ces mesures-là. Et l'Institut national de la santé publique nous dit que c'est la bonne façon de faire, que la meilleure façon, c'est tout simplement d'aérer nos classes.
Non, mais là, c'est pas dur. Là. Quand on est rendu avec une fondation qui demande aux gens de faire des dons, là, puis j'ai rien contre Jasmin Roy, au contraire, là, pour aller chercher des équipements qui devraient être payés par le gouvernement, puis qu'il y a même des écoles qui refusent les équipements gratuits, là. Sérieusement, M. le ministre, il y a un problème dans le shop, là.
Bien, c'est peut-être un problème à arriver avec des équipements qui ne sont pas recommandés non plus par des experts. Alors, au moment où on se parle, la santé publique ne recommande pas l'installation de systèmes de filtration. L'INSPQ ne recommande pas ça non plus. Je voyais hier des commentaires de M. Perron, un spécialiste de l'INSPQ, un prof de l'Université de Montréal, qui disait qu'en réalité, la science n'a pas du tout tranché à l'effet que ça serait utile d'installer ce type.
Non, mais à la base, là.
Ce qui est utile, c'est la ventilation.
Je comprends, mais la science va peut-être trancher dans un mois et demi. Puis moi, j'entends d'autres experts qui disent exactement le contraire. Et là, je sais que je dois vous libérer, là. Mais ma seule conclusion, c'est COVID ou pas, on devrait peut-être avoir des écoles qui ont de l'air de qualité, point à la ligne. Pas attendre que la santé publique nous dise que là, ça serait peut-être le moment de le faire.
Bien, là-dessus, on est d'accord. Et moi, je vous dis que le rapport très sérieux, avec 20 points de vérification dans toutes les écoles déposés vendredi, nous démontre qu'on a fait nos devoirs. Et M. Arcand, on a atteint un plateau autour du 10 octobre sur le nombre de classes qui sont fermées. Et depuis le 10 octobre, 98 % des classes sont ouvertes au Québec. C'est stabilisé depuis maintenant 7 semaines. Si vraiment il y avait de la contamination dans les classes, là, puis que quand un élève entre en classe, puis malheureusement, il est asymptomatique, mais il est contagieux. Puis, si on avait un problème de ventilation, bien, il y aurait une explosion des cas et donc une explosion des classes fermées. Bien, ce n'est pas ça qui arrive.
Non, je comprends.
Ce n'est pas ça qui arrive dans les écoles. On s'est stabilisé depuis maintenant 7 semaines.
Mais
c'est des chiffres.
OK, mais en même temps, on est d'accord pour dire qu'il y a des élèves qui se présentent moins aux écoles maintenant, que deuxièmement, on est une période de l'année où le climat permet encore d'ouvrir les fenêtres. On n'est pas au mois de février à moins 25. Ça fait partie des données, ça aussi, non?
Bien, effectivement, mais en fait, on a quand même eu quelques jours de neige et on va continuer d'ouvrir les fenêtres pendant l'hiver, avant l'arrivée des élèves sur l'heure du dîner. M. Arcand, j'ai grandi, vous avez grandi aussi vraisemblablement dans des écoles où on devait ouvrir les fenêtres pour ventiler. On le faisait un peu moins que ce qu'on va faire cette année, mais l'essentiel, c'est de ventiler 2-3 fois par jour, 15 minutes, et l'INSPQ nous dit que c'est suffisant. Et moi, je fais confiance aux experts.
OK, merci M. Robert. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Jean-François Robert, j'ai le ministre de l'Éducation, 7h38.